il est 23h.
Parlons vrai. 22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Eh bien, on va continuer à saboter votre saboteur. C'est un terme de Christophe Médici, hein, puisque vous êtes l'auteur de ce livre, Libérez votre cerveau de son saboteur. C'est aux éditions d'Angle. Alors, pour pas qu'il y ait confusion suite justement à ce que disait Carole, on parle bien de son saboteur intérieur, de cette petite voix critique qui est toujours en train de nous mesurer, de nous dire qu'on vaut moins que ce qu'on est. Hein. Je crois que chaque individu, vous l'avez dit tout à l'heure, oui, chaque individu a la capacité d'être bien et il faut vraiment se donner confiance.
Tout à fait, Brigitte.
Alors, je précise que vous organisez un stage, un week-end, le 28 et le 29 juin, justement pour balancer ton saboteur. C'est à Paris. Hein. Si vous avez envie de vous inscrire, vous allez sur le site de Christophe, hautequalitérelationnelle.fr. On va donner la parole à Tania, mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Qu'est-ce qui prouve que les femmes sont largement supérieures aux hommes?
Vous avez... Je donne ma langue au chat, Brigitte.
Eh bien, c'est parce qu'avec une goutte de sperme, elles vont en faire un bébé.
Oh, que c'est beau.
C'est joli.
C'est
hein.
Poétique.
Oui, moi, c'est très beau. Très beau. Et puis, c'est vrai, en plus, franchement...
Vrai, oui. Hein, c'est vrai, tout à fait.
Bon, on ne fait pas ça en claquant des doigts, mais quand même, hein, il faut y arriver. Hein.
Quelle création.
Et d'ailleurs, je crois que ça fait partie des choses qui ont beaucoup, beaucoup contribué à faire le patriarcat. Parce que je pense que le fait que les femmes sont celles qui vont faire les bébés, ça a créé beaucoup...
Qu'est-ce que c'est à côté, même une œuvre d'art? Qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose. Hein.
On est bien d'accord. Ouais. Tania, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour Christophe.
Bonjour Tania.
Alors oui, le saboteur, c'est quelque chose d'énorme parce qu'il se met en place automatiquement, je dirais.
Sans qu'on s'en rende compte surtout, c'est ça qui est terrible, oui.
De manière insidieuse et puis souvent, enfin, pour ma part, depuis l'enfance. Et je pense que j'ai éteint les petites étincelles, les élans que j'avais en moi. Bon, je dis j'avais, hein. Et je me suis rendu compte que maintenant, j'ai passé ce cap et je suis complètement dans la voie inverse. Je n'arrivais plus à écouter la moindre de mes petites voix et je n'avais plus envie de rien. Je ne savais pas plus où je devais aller en fait, parce que j'avais perdu ces étincelles. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'aimais quand j'étais plus jeune, parce que j'avais vraiment perdu le goût de tout, sauf le goût des autres, ça c'est sûr. Et du coup, bah, toutes mes expériences n'étaient que des échecs pour moi-même, parce que je donnais beaucoup aux autres, mais voilà, c'était comme ça. Je ne m'étais jamais écoutée. À un moment donné,
donc là vous parlez surtout du domaine affectif.
Voilà, non, même professionnel.
Même professionnel. Oui,
vraiment, j'ai tout coupé en me disant, ben non, de toute façon, ce que je peux penser, écoute les gens qui ont de l'expérience. Et au final, je n'ai pas eu d'expérience réussie, entre guillemets, et je n'ai rien eu sur quoi je pouvais me reposer. Dire, ah ben tu vois, t'as écouté ta petite voix, ça tu peux le faire, ou t'y arriver.
On entend, Tania, visiblement, que votre vie a été une succession d'échecs dans tous les domaines, si je comprends bien.
Ah oui, merveilleusement.
Merveilleusement.
Tania, vraiment. Je peux me permettre là, on entend beaucoup la voix de votre saboteur parlant dans votre bouche. J'aimerais vous dire que vous pourriez prendre 5 minutes. Je sais pas quel âge vous avez, on va pas vous le demander avec Brigitte, mais imaginez tout ce que vous avez déjà réussi dans votre vie jusqu'à l'âge que vous avez là. Prenez une feuille ce soir, après avoir écouté l'émission, et tout ce à quoi vous êtes parvenu, et toutes les belles créations que vous avez déjà faites et les victoires. Je me fais comprendre, Tania?
Est-ce que vous avez eu des enfants, par exemple, Tania?
Oui. Oui, alors j'ai 55 ans, j'ai une petite fille, et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai dû passer par un burn-out pour prendre conscience. Parce que mon mental...
Vous savez, je crois, Tania, dans ce que vous me dites, je pense que votre besoin d'être aimé était tellement plus important que votre amour pour vous-même, que vous vous êtes tout le temps sacrifié pour les autres. Est-ce que je me trompe?
Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Et là, c'était normal, en fait, de se saboter. C'était...
C'est vraiment quelque chose de fréquent. Hein. On veut tellement plaire, on recherche tellement dans les yeux des autres sa valeur.
Une reconnaissance
absolument, qu'on finit par ne plus vivre pour soi. Et ça, je crois que c'est, je sais pas, Christophe Médici, c'est quoi le, qu'est-ce que vous diriez comme, quel conseil vous donnez à ceux qui nous écoutent pour justement tuer ce saboteur-là?
Je dirais que la première chose, c'est la conscientisation avec les outils relationnels anti-saboteurs, de se dire que la façon dont on parle, c'est pour ça que je disais que moi, en écoutant Tania, j'entendais beaucoup dans sa bouche la voix de son saboteur.
Vous avez raison.
Alors qu'il y a plusieurs voix, Tania. Il y a d'autres manières de dire, vous pourrez dire 10 fois ce soir, et je donne ce conseil-là à tous ceux qui nous écoutent, j'ai la chance de, je suis fier d'avoir fait, Brigitte parlait des enfants, que vous aviez un enfant, mais vous vous rendez compte? Vous pouvez être fière d'avoir mis au monde un enfant, d'être maman, d'avoir été maman.
Surtout qu'elle va bien, votre petite fille.
Oh oui.
Ah bah voilà, là on entend la voix.
Là, c'est plus la voix du saboteur.
Ça, c'est pas la voix du saboteur.
Et la voix du saboteur, je l'ai appelée dans le livre la sablangue. Il dit toujours, jamais, rien, tout. Et il est continuellement en train de voir la face, disons, le verre à moitié vide et pas à moitié plein.
Oui, et quand j'en parle, j'ai la voix enrayée, je me rends compte.
Et là, votre voix, elle est plus la même. Dès que Brigitte vous a mis sur une autre vibration, voyez. Et moi, je tends à vous dire qu'est-ce qu'il y a de positif. Vous savez, la haute qualité relationnelle, c'est une méthode qui est dans la mouvance de la psychologie positive de Martin Seligman, hein. C'est un grand homme. Il faut un petit peu être dans le positif
avec
soi-même.
Est-ce qu'il faut que, quand même qu'on comprenne bien, Tania, et ça, je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, plus on se dit des choses positives, plus notre cerveau va aller vers du positif. Plus on se dit des choses négatives, plus notre cerveau nous entraîne vers des choses négatives. C'est obligatoire.
Est-ce que je peux amener une nuance, si vous permettez?
Mais évidemment.
Parce que me le dire, je me le suis beaucoup dit, mais je n'y croyais pas en fait.
Mais évidemment, votre saboteur vous empêche d'y croire.
C'est ça.
Mais Brigitte a raison. Ben, votre saboteur vous dit non, mais tu vas arrêter un petit peu de te dire des choses positives. Là, t'as tenté 5-10 fois. C'est faux ce que je te dis. C'est n'importe quoi. Vous entendez ça? Vous voyez, votre saboteur? C'est un pernicieux, votre saboteur, au sens étymologique du terme, qui ruine les gens pernicieux, les voix pernicieuses dans nos têtes. Ça vient du latin pernicioso, qui veut dire ruinant. Ça vous ruine. Vous voyez ce que je veux dire? Tout votre discours positif, il veut pas que vous l'ayez. Il ne veut pas.
C'est ça. Eh ben oui. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça.
Venez faire un stage un jour et ça bougera.
Eh bien, avec grand plaisir.
Allez, je vous offre 50% si vous... je vous fais un cadeau. Parce qu'il faut l'oser, votre saboteur, il vous dira non, n'y va pas, t'as pas le temps, n'y va pas, tu le mérites pas, n'y va pas, t'en as pas besoin. Le nombre de gens qui devraient faire un travail sur eux et leur saboteur, il dit, mais on parlait des hommes.
Ça
tout
sert
à
rien.
Voilà,
hein, les hommes que je suis dit,
ça sert à rien. Vous savez, les pires gens, ce que leur dit leur saboteur, ils disent, je sais. Et dès l'instant où tu dis je sais, tu fais ni thérapie, ni psychanalyse, ni coaching, ni formation. Tu sais pourquoi? Parce que tu dis je sais. Est-ce que tous ceux qui nous écoutent peuvent être d'accord, Brigitte, que dire que le plus abruti de tous les abrutis peut dire je sais? On est d'accord? C'est deux mots. Il y en a plein les bars des gens qui disent je sais. On est d'accord, hein? Et il y a une chanson, hein, d'un vieux monsieur, paix à son âme, qu'on adorait. C'était sa chanson Testament. Vous vous rappelez? Un certain Jean? Gabin, à 20 ans, je disais je sais, à 50 ans, je disais je sais, à 70 ans, je disais je sais. Ouais. Non, je sais que je ne sais à rien. Oui. Moi, j'arrive, je suis stagiaire, je sais pas grand-chose et puis je vais apprendre. Mais alors les gens qui disent je sais, c'est des sachants, ils font aucun travail sur eux. Et là, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes comme ça. Le genre masculin, le genre. Et pourtant, je suis un homme, hein. Mais les femmes se remettent en cause positivement, Brigitte, certaines.
Je suis pas spécialement d'accord avec ça,
mais c'est pas
grave. Ouais. On n'est pas là pour débattre sur la question du genre. Tania, ça vous parle? Vous sentez que ça va peut-être faire son chemin?
La petite graine
que Christophe essaye de planter dans votre cerveau?
Oui, c'est évident. Et vraiment, le saboteur, comme vous dites, il est partout. Et vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure, je sentais cette voix enrayée là que j'avais. Et c'est quelque chose de tellement en fond. C'est un disque qui tourne au fond. Et je pense qu'il faut vraiment faire l'effort d'essayer de chercher la petite étincelle qui est en soi. Est-ce qu'on aime? Et peut-être commencer
Tania, vous savez, quand on vient au monde, quelle que soit notre race, notre culture, notre couleur de peau, notre nationalité, et que sais-je encore, quand on vient au monde, on a un élan vital extraordinaire qui nous permet de sortir du ventre de notre mère. Cet élan vital, pourquoi on l'éteint tout doucement, petit à petit? C'est parce qu'on... On reste dans des croyances que c'est pas pour nous, que c'est pas... C'est notre saboteur qui nous l'éteint, notre élan vital. Et il faut vraiment toujours se rappeler qu'on a tous, au moment de la naissance, cet élan vital qui est intact. Et si on l'éteint, bien il faut aller le rechercher et le réveiller.
C'est ça, je suis tout à fait d'accord, merci beaucoup.
Regardez votre petite fille, comment elle ose se mettre debout pour marcher. Comment... Regardez les enfants, les tout petits enfants, cette force de vie qui est en eux. Il ne faut pas l'éteindre, cette force de vie.
Et elle est toujours là.
Elle est toujours là.
Même chez une dame de 88 ans.
Parfois, elle est très endormie.
Mais elle est toujours
elle est toujours là.
Et ce qui est fabuleux, c'est Tania, j'ai envie de vous dire, vous dites, il est partout. Il y a une autre chose qui est partout. Il existe quelque part en vous et à l'extérieur de vous, quelque chose qui est connecté à la source éternelle. C'est celle dont parle Brigitte depuis la naissance, qui elle aussi est partout. Et elle vous aime. Elle vous aime, Tania. Et ça, je le dis pour tous ceux qui nous écoutent. Et si vous vous connectez à elle, c'est ça l'élan vital dont parle Brigitte. Vous êtes capable de tout.
D'accord, ok, bien.
Eh bien, formidable, vous avez terminé par un mot positif. Bravo, Tania.
Vous ne le voyez pas, mais j'ai le sourire. Merci beaucoup.
Eh bien, j'en suis ravie.
C'est pour 200 euros, la tête.
Oh, arrêtez, Christophe. Soyez, arrêtez. Allez, on fait une petite pause de pub et on continue dans un instant avec Christophe Médici, bien sûr, qui nous parle de notre saboteur pour justement le saboter.
Sud Radio Nîmes
104.7
Sud Radio.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. J'ai trop joué. À ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux.
Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
22h minuit. Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Christophe Médici est avec nous, fondateur de la haute qualité relationnelle, une méthode qui aide les gens justement à être plus en confiance avec eux-mêmes, à améliorer leur estime de vous-même. Sophie est avec nous. Bonjour, merci de prendre la parole.
Bonjour Brigitte, bonjour Christophe.
Bonjour Sophie.
Merci pour votre émission. J'ai beaucoup d'émotions dans la voix parce que j'ai écouté les témoignages précédents et je me suis beaucoup reconnue dans pas mal d'entre eux, celui d'avant la pause des infos et celui qui vient de se terminer. Moi, je crois que j'ai pas mal terrassé
C'est bien, vous savez même plus comment ça s'appelle. Voilà,
exactement. Comme quoi, je l'ai vraiment terrassé. Et ça a été plusieurs étapes pour le terrasser. D'abord, celle qui a déclenché tout, si je peux dire, c'est la rencontre avec un homme qui m'a fait vivre l'inacceptable. Et là, je crois que j'ai tapé le pied au fond de la piscine et que ça a tout fait rejaillir, en fait. Et merci à tous les thérapeutes qui m'ont aidée dans cette période. Etc.
Mais voyez Sophie, c'est intéressant et important ce que vous dites. Là, vous avez une grande épreuve difficile qui vous tombe dessus et vous auriez pu en effet rester terrassé, mais vous en avez fait quelque chose et grâce à cette épreuve difficile, vous en avez fait une force. On voit bien comment dans chaque instant de notre vie, on peut se relever, grandir ou au contraire rester en enfer.
On a toujours le choix et vous avez pris les bonnes décisions et vous êtes en plus là dans ce que vous nous racontez Sophie, la gratitude malgré tout. C'est-à-dire que j'ai eu cet événement, merci à cet événement, je suis devenue plus grande et plus forte grâce à cet événement. C'est terrible de dire la gratitude malgré tout, hein, on est d'accord, hein. C'est horrible ce qu'on a vécu, et merci de l'avoir vécu.
Oui, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire
merci d'avoir vécu.
Mais Christophe a raison, c'est grâce au fait qu'on apprécie aussi les moments difficiles qu'on traverse, parce qu'on en a fait quelque chose de positif. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans la plainte. Ah bah oui, mais si j'avais pas eu ça, j'aurais pu. Ah mais si j'avais pas eu ça, j'aurais pu. Eh ben ça, c'est un saboteur qui parle, c'est pas nous.
Tout à fait. Je ne pense pas que je serais la femme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu cette expérience dans laquelle je ne suis pas restée très longtemps. Hein. J'ai vécu 3 ans cet enfer.
C'est déjà pas mal, 3 ans, Sophie, franchement. C'est pas trois semaines.
C'est déjà pas mal, mais en même temps, pareil, il y avait beaucoup de signaux, il y avait beaucoup de choses qui me disaient de partir avant. Mais je suis allée au bout, et quelque part au bout, il a fallu taper le pied au fond de la piscine pour remonter. Et oui, bien sûr, mais après toutes les conditions extérieures font que voilà, bon, c'était. Mais en même temps, je me dis je suis pas restée 15 ans quoi.
Donc, et puis surtout, vous avez su retrouver l'estime de vous-même. Vous avez su vous guérir de ce moment. C'est compliqué quand on est avec quelqu'un de très 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 toxique. On est détruite. Il faut se reconstruire. Et vous avez réussi à vous reconstruire. Et aujourd'hui, plus personne ne pourra vous détruire.
Non. Aujourd'hui, plus personne ne pourra me détruire. Et j'ai même développé mon sens créatif. J'ai créé ma propre société il y a 12 ans. Et j'en vis. J'ai créé à partir d'une idée que j'avais depuis quelques années. Et j'ai entendu ma petite voix intérieure qui me disait « Vas-y, tu peux le faire. » Tu peux le faire. Et je sentais une main dans le dos qui, à chaque étape de la création, me poussait tout doucement, tranquillement, en me redisant « mais vas-y ». Et cette voix intérieure, je l'ai vraiment écoutée. Et maintenant, quand elle se manifeste, je l'écoute. Et les questions que je me pose aujourd'hui, quand j'ai besoin de vivre ou un endroit ou un événement, où je me dis « où est-ce que je serai la plus heureuse la semaine prochaine, le mois prochain ?» la soirée prochaine. Où est-ce que je serai la plus heureuse? Quel est mon besoin? De quoi j'ai envie?
Mais vous voyez, ça me fait revenir sur ce que Christophe disait tout à l'heure, cette petite lumière, ça s'appelle la foi. Et si on a foi en soi, eh bien, tout est possible.
Ouais, et en son projet. Et en ses projets. Et en ses rêves, il y avait un Walt Disney. Walt Disney avait cette formule que j'adore. Je vais dire un mot en anglais, juste une toute petite fois. Je vais la traduire tout de suite, Brigitte. Walt Disney, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, if you can dream it, you can do it. Si tu peux le rêver dans ta tête, tu peux le faire. tout ouais. projet, et même les, que ce soit la chapelle Sixtine de Michel-Ange, d'accord, ou faire quelque chose de beau dans son jardin, dans son parc, il se construit deux fois. Vous êtes d'accord, Sophie? Une fois dans nos têtes, une fois dehors. Il est strictement impossible qu'il ne se construise pas dans la tête avant de se construire dehors. Sauf que Brigitte a raison. Qu'est-ce qui va faire que la chose va grandir, croître et décupler? La foi et l'amour qu'on y met. Moi, la haute qualité rationnelle, je l'ai entendu dans ma tête un soir de novembre 2007 au Café du Croissant. 18 ans après, 120 000 stagiaires, 18 livres. Vous imaginez? Ça aurait pu ne rien être, hein. Une pensée qu'on m'a donnée dans ma tête. Mais non, j'y ai cru. J'y ai cru. Je me suis dit, ça, c'est ta mission de vie, mon garçon. Alors maintenant, tu as la feuille de route, vas-y. Œuvre. Ose œuvrer. Ah mais non, parce que voilà. Personne n'est là pour nous dire fais-le, n'est-ce pas Brigitte? C'est toi qui le fais tout seul. C'est pour ça que moi j'ai un petit peu souci avec les gens qui ont des difficultés avec la solitude. Parce que moi je pense que c'est dans sa solitude que justement on travaille sa tarte.
Ça dépend des tempéraments.
Ah
ça,
oui,
vous avez raison, mais il y a des personnes qui ont besoin de travailler en groupe. Je crois qu'il faut vraiment comprendre que chaque être est un individu. Et ce qui est important, c'est de se comprendre et de se connaître ses forces certes, mais aussi connaître ses failles. Et ses failles, c'est pas se saboter, c'est éviter de se mettre dans des situations qui ne nous conviennent pas. Oui, vous voyez, Sophie, si vous êtes vous avez créé votre entreprise, visiblement vous avez créé quelque chose qui est dans vos compétences.
Oui, tout à fait. Et avec mon envie de liberté, en fait.
Voilà. Donc vous avez appris à vous connaître, sans doute grâce aux thérapies que vous avez faites pour sortir de ces 3 ans de galère. Et puis donc aujourd'hui, vous vous connaissez, vous savez prendre les directions qui vous conviennent, et vous êtes, vous avez foi en vous, et vous êtes sorti, et vous avez mis de côté votre saboteur.
Tout à fait. Et j'ai vraiment besoin aussi, moi, des moments de solitude. En fait, je crois que je suis à 70% de moments de solitude et 30% de moments accompagnés. J'ai besoin de cette solitude pour bien analyser, réfléchir les situations, les problématiques, etc. J'ai vraiment besoin de... Je fais partie de ces personnes qui ont besoin de solitude, et je n'ai pas peur de la solitude, et je n'ai pas peur d'être seule avec moi-même. Je n'ai plus peur de ça, d'être seule avec moi-même.
Mais vous savez, Sophie, souvent, quand on a peur d'être seul avec soi-même, c'est qu'on n'est pas bien avec soi-même. Hein. Donc il faut apprendre à...
Je crois que le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'était entrer en amitié avec soi-même. Mais comment devenir son meilleur ami.
Exactement.
C'est comme ça qu'on devient son meilleur ami. Parce que quand t'es ton ami, t'es bien avec ton ami, avec ton meilleur ami. T'es heureuse avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie. On est d'accord, Sophie? T'es bien avec
elle. C'est ça, complètement.
Bah oui, c'est ta meilleure amie, donc...
Complètement, complètement. Et les mantras positifs, vous disiez tout à l'heure, voilà, de se réciter des phrases, etc. Oui, la méditation m'a beaucoup aidée, le yoga, tout. Enfin, chaque thérapeute ou chaque activité à laquelle j'ai fait appel pour dans un moment pour m'aider, ou alors pour aujourd'hui me développer, m'a apporté quelque chose, un mot, une phrase. Je tire toutes les ficelles, en fait. Je tire beaucoup de ficelles.
Peut-être que je dirais, et ça c'est mon combat, de dire que tout ça, tout ce que fait la formidable émission de Brigitte, on est d'accord, depuis des décennies, et des gens comme nous, eh bien, pourquoi il n'y a pas des petites graines qui sont mises dès les programmes scolaires? Parce que autour de nous, il y a combien d'êtres humains qui font jamais rien là-dessus?
Il y a énormément d'instituteurs, de professeurs
qui font enfin ce
travail. Mais toujours, depuis toujours.
Mais il y a beaucoup de gens qui après font plus de travail sur eux, Brigitte, c'est ça le problème.
Ah mais il faut... Oui, la petite graine, elle peut être plantée, mais si on l'arrose pas, ça va pas pousser.
Et
Sophie, bravo, vous avez bien arrosé les petites
bravo
graines.
Bravo Sophie, bravo.
Merci beaucoup en tout cas. On fait une petite pause, on se retrouve avec le sexo-conseil du jour, les 4 piliers des couples qui durent. On en parle dans un instant, et si vous avez envie de réagir, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 sur Sud Radio.
Sud Radio Rodez.
104.4.
Sud Radio.
J'ai passé mon temps à vouloir renaître, à chercher comment, pourquoi et peut-être ici maintenant. J'en fais l'aveu. Que mes lèvres s'en tiennent à la vérité. J'embrasse mes faiblesses, ma joie, mes péchés ici, maintenant. fait le vœu pour vivre d'instinct. Il faut vivre d'instinct. Demain, demain, c'est si loin. J'aurai soin de moi-même ici, maintenant. Je fais ce vœu pour vivre d'instinct. Il faut vivre d'instinct. Demain, demain, c'est si loin.
Et Sud Radio, le sexe au conseil.
Eh bien, Christophe Médici, voici les quatre piliers des couples qui durent. Alors, c'est une demande assez fréquente, hein. On me demande souvent comment on fait pour faire durer son couple. Alors, tous les thérapeutes ne sont pas du même avis. Alors, j'ai fait un peu une synthèse des quatre piliers qui seraient nécessaires pour faire durer son histoire d'amour. Alors, je crois qu'en tout premier, on entend souvent la communication. Je dirais non. Moi, je mettrais l'engagement, ou si vous préférez, le désir de continuer ensemble, d'avoir envie de vivre à deux. Tant qu'on n'a pas ce désir-là, ce pilier-là, je ne vois pas comment le couple peut durer. S'il y en a un des deux qui n'a pas envie de s'engager, on ne pourra pas faire durer son histoire. Ensuite, je mettrai l'intimité. Alors ça englobe la sexualité, certes, mais pas que. C'est aussi la tendresse, le plaisir de d'être ensemble, enfin cette intimité là qui n'existe que dans le couple d'ailleurs, hein. Ensuite, le troisième pilier, ce sera les valeurs communes. Je vais pas dire des envies communes, hein, je vais bien dire les valeurs communes, parce que les couples qui n'ont rien en commun, ils risquent souvent de s'éloigner ou alors de se rapprocher trop d'une autre personne. C'est quand même important d'avoir des envies communes, des valeurs communes. Par exemple, quand il y a une trop grande différence d'âge ou une trop grande différence de culture, c'est vrai que ça coince souvent beaucoup, voilà. Et c'est formidable quand les couples ont une passion commune ou une valeur commune. On le voit notamment dans les couples qui sont très pratiquants, ça crée du lien. Et en dernier lieu, je mettrais l'entente commune, c'est-à-dire une sorte d'amitié, de respect, parce que c'est vrai qu'il faut savoir être solidaire, hein, pour vivre en couple, parce que quand il y a un vrai problème, si on peut pas compter sur l'autre, ça va détruire le couple. Et c'est ce qui permet de bien communiquer, cette entente commune. Et si on n'arrive pas à bien communiquer à un moment ou un autre, ben il y a des conflits dans le couple.
C'est magnifique. Peut-être une petite potion magique supplémentaire, mais je partage.
Allez-y,
mais alors à 100%, Brigitte, une belle image de ce couple. On est fiers de cette relation.
Vous avez raison. Oui.
On en est fier.
On a envie de parler de son
voilà.
couple.
On parle de son couple quand il n'est pas là. On est fier d'aller avec cette personne en soirée ou ailleurs. On est fier d'être.
Si on ne présente pas son partenaire à ses amis, c'est qu'il y a peut-être un petit problème.
Même quand on en parle
sauf
pas.
Si c'est un couple adultère, évidemment, évidemment. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous.
Oui, bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité.
Bonjour Michel.
Christophe Médici qui est avec nous.
Bonjour Christophe, oui. Voilà, je disais à votre collègue que le sujet du jour me parle beaucoup parce que j'ai vécu avec un saboteur interne pendant de nombreuses années. J'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte parce que j'étais un peu schizophrène dans le sens où je me suis toujours beaucoup aimée, je me suis toujours sentie bien avec moi-même, donc je n'avais pas le sentiment de saboter quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte que sur le tard, mais il n'est jamais trop tard, que les difficultés que j'affrontais provenaient de moi, en fait. Donc je faisais des mauvais choix à répétition avec mes partenaires, mais vraiment, vraiment c'était suicidaire, quoi, les choix que je
alors, faisais. Comment vous expliquez que vous vous aimiez bien, visiblement, en tout cas c'est ce que vous dites,
oui.
et qu'en même temps vous faisiez des choix de partenaires qui n'étaient pas bons pour vous?
Alors, j'ai connu l'inceste étant petite, donc je suppose que ça m'a largement déconstruite.
C'est clair.
Mais, paradoxalement, ça c'est des choses que il y a des membres de ma famille avec lesquels les membres de ma famille ne sont pas forcément d'accord, mais moi je me suis toujours sentie aimée, dans le bon sens du terme, malgré l'inceste qui est une abomination, et ça... Il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y avait cette dualité dans ma famille. Je pense que j'ai retiré assez d'amour, normal, entre guillemets, pour pouvoir me construire quelque part, au moins en partie.
Oui, je vois. Mais c'est certainement pas très simple à comprendre pour ceux qui nous écoutent quand même. Mais ce que ça voudrait dire, c'est votre père qui vous a abusé?
Oui.
Et qui en même temps vous aimait?
Moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être aimée d'une manière abominable d'un côté et d'une manière saine de l'autre.
Non, non, mais attendez, c'est pas incompatible. Votre père pouvait vous aimer d'amour tendre, au sens que d'un père qui aime son enfant, et il pouvait être un homme pervers qui vous utilisait comme objet sexuel à ses propres fins. Ça peut paraître, ça paraît en effet incompatible. Malheureusement, quand on est pervers, Il y a deux êtres qui s'affrontent, hein, enfin qui sont dans la même personne. Et donc, mais ce qu'il faut bien comprendre, et là je l'explique pour ceux qui nous écoutent, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à la fois donc vous étiez capable de vous aimer et de vous sentir quelqu'un d'aimable. Mais en même temps, vous avez saboté vos vies affectives. Parce que tant que vous n'aviez pas réparé ce traumatisme effroyable, vous ne pouviez pas vivre une relation heureuse avec un homme.
C'est ça, c'est exactement ça. Il y a un point sur lequel peut-être peut intéresser certains auditeurs.
Oui.
Effectivement, c'est difficile à comprendre parce qu'on a parfois cette dualité. Et ce qui m'a beaucoup secouée, c'est qu'un thérapeute à l'époque m'avait dit, vous savez, votre mère était au courant. Et je suis partie quasiment en claquant la porte parce que pour moi, c'était hors de question. Je pense que c'est l'amour que j'ai ressenti pendant longtemps, ça me venait de ma mère. Et quand j'ai pris conscience du fait qu'elle savait, ça m'a vraiment beaucoup secouée. Et j'ai dû faire ce travail aussi après de me dire, bon, bah, elle savait, mais elle m'a aimé quand même. Elle n'a pas été capable de me protéger, mais elle a su me donner plein de choses qui m'ont aussi aidé à me construire.
Alors, c'est quand même une injonction un petit peu violente quand le thérapeute vous dit ça. Il aurait dû vous dire, mais peut-être que votre mère savait sans vraiment savoir.
Je pense qu'il avait compris que j'étais mûre pour l'entendre.
D'accord. Alors là, il a dit la phrase qui vous a fait réagir.
C'était le bon moment.
D'accord. Oui, c'est possible. Oui. C'est vrai que parfois les thérapeutes doivent secouer un petit peu pour.
Oui.
Mais c'est à double tranchant parce que ça peut en effet parfois être reçu très violemment.
Michel, une question. Maintenant, là, on sent une femme qui a beaucoup conscientisé de choses, on est d'accord, hein?
Donc, oui,
est-ce
oui.
que vous diriez que votre saboteur, vous savez le neutraliser maintenant et que vous avez rencontré un amour
oui.
solide suite
oui.
à cela?
Oui, ah oui, oui, oui. J'ai un compagnon que j'adore depuis.
Bravo. Bravo. Bah, vous en avez fait quelque chose. Ça fait là, un peu encore une synthèse de tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez transformé le négatif en positif, Michel.
Ben, c'est même formidable parce que vous partez avec un handicap évident. Hein, y a rien de pire que l'inceste, surtout.
Je l'entreprenais, c'était pour eux d'avance que ça n'allait pas aboutir.
Et puis,
fait, ça a été assez dur parce que ça demande une remise en question de soi. Et on a quand on prend conscience du fait qu'on a été victime d'abus, on a tendance à se poser en tant que victime. Et c'est dur à un moment donné de se dire mais en fait c'est moi l'artisan de mon propre malheur. Même si j'ai été victime à un moment donné, il faut arriver.
Qu'est-ce que j'en fais?
Oui.
Ben, si on reste, c'est ce que je dis souvent, mais malheureusement parfois les gens ne le comprennent pas. Si on reste victime, on ne peut pas être libre de sa vie.
C'est ça.
On fait toute sa vie une carrière de victime, comme disait Cyrulnik.
C'est horrible. Parfaitement emprisonné.
Mais pour sortir du rôle de victime, il faut des tuteurs qui vont nous aider. Parce que au moment où vous enlevez cette carapace de victime qui quand même vous permet de tenir debout, parce qu'il y a quand même beaucoup de d'enfants abusés qui se sont suicidés au moment de l'adolescence il faut pas nier la violence de ce que vous avez vécu, mais au moment où vous retirez, si je puis dire, le vêtement de victime, il faut des gens qui sont suffisamment là, solides, pour vous, que vous puissiez vous appuyer dessus jusqu'à ce que vous puissiez à nouveau être enfin la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est bravo, parce que c'est
bravo, Michel, bravo.
Là on sent une femme qui est bien épanouie, posée, qui se connaît, stable, etc. Mais j'imagine bien que ça a été remuant pendant pas mal d'années.
Remuant, oui. Et puis pour revenir à votre
question, ça coupe par moment.
Allez-y.
C'est pas grave,
continuez, on va y arriver.
Oui. Oui, je disais que...
Bon, ben non. Malheureusement, on vous entend plus,
ça
c'est dommage.
C'était
certainement très important ce qu'avait à nous dire Michel. En tout cas, merci
bravo.
Michel. Je pense qu'elle réagit à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que on peut toujours, de n'importe quelle épreuve, sortir de son rôle de victime.
Et être proactive et en faire quelque chose.
Parce que les saboteurs, ils adorent les victimes.
Ah, mais ils adorent. Et les alliés extrinsèques des saboteurs, Brigitte, hein, ils vont aller le chercher et appuyer dessus, évidemment. Quand la personne se positionne en victime, elle va rencontrer un persécuteur. Parce que dans le triangle de Cartman, il n'y a pas que le sauveur, il y a le persécuteur aussi. Hein. Ils sont trois, il y a trois acteurs.
Et j'en profite pour dire qu'on est actuellement, malheureusement, dans une société où on encourage beaucoup les gens à rester victimes. Hein. On les encourage à sortir des livres de victimes, etc. Mais malheureusement, rester dans son rôle de victime, c'est continuer à souffrir.
Absolument.
Alors que lorsqu'on en sort, on entend la voix de Michel qui est une
explication macro-relationnelle, Brigitte, parce que je pense que ce triangle persécuteur sauveur victime qu'on appelle le triangle traumatique de Cartman. C'est à la fois le triangle de l'immaturité, mais c'est aussi le triangle du pouvoir sûr. Les gens qui sont dans le pouvoir sûr sont des gens qui jouent à persécuteur sauveur victime. CF, écoutez beaucoup d'émissions.
Eh bien, nous, on vous aide à devenir libre et à être vous-même. On continue dans un instant sur Sud Radio. Vous pouvez bien sûr réagir si vous voulez. Et si vous avez envie de participer à un stage pour aller mieux, n'hésitez pas, vous allez sur le site de Christophe Médici, hautequalitérelationnelle.fr. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant.
Sud Radio, le Puy-en-Velay.
91.
Sud Radio.
J'ai fini par quitter Notre-Dame et la France. Les sanglots de Verlaine, Hugo et ses souffrances. Valjean, Quasimodo, misérable martyr. J'ai préféré partir sans jamais revenir. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la France. Abandonner Van Gogh au tournesol de Vence. Les hallucinations à Saint-Rémy-l'Absinthe. Ajouter des couleurs à la lumière éteinte. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la danse. Du boléro de Ravel, roulement sans dissonance. Et plutôt que m'essayer à d'autres originalités, j'ai fermé le piano et avalé la clé. J'ai fini par quitter Notre-Dame toute haute et laisser Vincent, François, Paul et tous les autres. Auguste à Louis Lumière, mon cinéma d'avant, Romy à Delon et Signoret à Montand. J'ai fini par quitter Notre-Dame et l'enfance, sa liberté chérie, les rois, les présidences, tout ce qui était nous, trois couleurs d'un drapeau. Je vous salue Marie, amour année zéro. J'ai fini par aller quand d'autres s'impatientaient, voir ailleurs si on savait apprendre à aimer et laver nos blessures dans un bain de jouvence, sans jamais oublier Notre-Dame et la chance d'avoir eu dans la vie cette correspondance, car je sais qu'il n'y aura jamais plus beau que la France. Oui, je sais qu'il n'y aura jamais plus beau que la France.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Christophe Médici est avec nous et nous vous aidons à tordre le cou à votre saboteur, ces petites voix qu'on se... Je voudrais vraiment le dire avec beaucoup de vérité. Moi aussi, j'ai de temps en temps une petite voix qui me dit quelque chose que... et c'est mon saboteur. Et on en a tous. Hein.
Moi aussi.
C'est vraiment important que tout le monde comprenne que on est... Ben, ça fait partie de la nature humaine et c'est pour ça qu'il faut en prendre conscience. C'est le meilleur moyen de justement ne pas se laisser envahir par cette critique intérieure. Fabienne est avec nous. Merci Fabienne.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christophe.
Bonjour Fabienne. Oh, c'est une voix qui me dit quelque chose, ça.
Mais oui, je vous appelle les Sables d'Olonne maintenant.
Ah, vous avez fait des stages avec Christophe, c'est ça?
Oui,
Fabienne,
c'est ça, j'ai fait des stages et voilà, on avait prévu de faire éventuellement une petite quelque chose au sable.
Ah bah avec voilà. Joie Fabienne, quand vous voulez.
Et donc, est-ce que vous avez l'impression que justement ça vous a aidé, que vous êtes beaucoup plus en bonne qualité relationnelle avec vous-même?
Oui, oui, ça m'a aidé. Et maintenant, je suis toujours, point de vue amour, toujours, je pense que je me sabote les histoires ou on me les sabote, je ne sais pas comment ça marche. C'est pour ça que demain j'ai rendez-vous pour une séance de MDR. On avait fait la semaine, je ne sais plus, une quinzaine de jours. On en avait discuté avec, je ne me rappelle plus comment il s'appelait votre invité, de Brébançon, une chose comme ça.
Guillaume de Brébisson, de Brébançon.
Voilà,
de...
voilà. Et en fait, j'ai probablement quelque chose d'inconscient qui me fait saboter mes histoires. En fait, c'était.
Mais vous savez, Fabienne, si vous. Alors, première chose positive, vous avez réalisé que vous sabotez vos histoires. Donc, c'est déjà plus totalement inconscient.
Alors, moi, j'avais pas l'impression de les saboter. C'est ce que m'a dit votre invité maintenant.
Mais alors, attendez. Si je vous dis quelque chose, ou si un de mes invités dit quelque chose, il faut que ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas vrai.
Bah, c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous pour voir si ça marche. Je sais pas.
Mais est-ce que vous avez l'impression que vous sabotez vos histoires?
Au départ, oui. Maintenant,
moi, j'ai pas l'impression. Enfin, je suis pas convaincue que vous sabotez vos histoires. C'est, vous voyez, faites attention. On peut. Moi, je crois qu'il faut vraiment toujours être très prudent.
Oui, qu'est-ce parce qu'en fait, la dernière qu'est-ce histoire, ferait... par exemple, c'était quelqu'un de très bien,
oui.
Mais je me disais, je vais tomber amoureux de lui, amoureuse de lui, et ça ne l'a jamais fait, donc du coup, je me suis pas forcée à rester avec lui, mais j'ai insisté, et du coup, à la fin, bah, en fin de compte, j'aurais dû écouter mon intuition dès le départ, quoi.
C'est-à-dire de le quitter?
Oui.
Bah donc vous aviez pas intérêt à ce que cette histoire dure, donc il fallait la saboter, me semble-t-il.
Ça aurait été bien qu'elle dure, parce que pour lui et pour moi ça aurait été bien, mais je n'ai pas réussi à tomber amoureuse, donc c'est compliqué.
Mais quand on n'est pas amoureuse, Fabienne, à la limite, c'est pas une histoire d'amour pour soi. On est dans une histoire d'amour quand on est amoureux et amoureuse, on est d'accord.
Je pensais
et quand
que ça allait arriver.
Ah oui, mais ça, Fabienne, c'est pas une science exacte, l'amour. Brigitte est bien placée pour savoir, et moi
vrai.
Aussi.
C'est
l'amour,
vrai.
Ce n'est moi pas aussi. Une science. L'amour, c'est un cadeau de Dieu à chacun à son heure. Et justement, le plus terrible, c'est comme disaient mes profs en psychosociologie, en thèse, c'est une pathologie et peut-être la seule pathologie aimable. C'est pas pour rien qu'on tombe amoureux. C'est une maladie. Rappelez-vous Michel Sardou. Elle court, la maladie d'amour. Non, mais comme on est malade.
Fabienne, mélangeons pas tout. Vous avez du mal à tomber amoureuse, c'est ça le problème?
Alors, je tombe amoureuse, mais jamais des bonnes personnes.
Ah,
donc vous n'avez pas envie de vous engager, peut-être?
Ben si, justement.
Si vous aviez envie de vous engager, vous tombez...
Moi, j'en ai vraiment envie, mais si, j'en ai envie.
De vous engager?
Oui.
Vous avez plus envie d'être seule?
Ah non, j'ai envie de m'engager. Hein, non, je me plais seule, mais je préfère être avec quelqu'un. Franchement, je préfère partager des choses que. Mais franchement, je suis heureuse seule, mais c'est quand même plus sympa à deux.
Mais pourquoi?
Pourquoi? Parce que c'est super d'être amoureux, d'avoir des petits papillons dans le ventre.
Je parle pas d'être amoureux là, je parle de vivre à deux.
Ah, de vivre. Alors vivre, non.
Ben voilà.
J'ai 61 ans pour
donc,
l'instant.
Non, mais voilà. C'est encore une fois, il y a la femme avec tout ce que ça comporte d'idéal, oui. De l'amour, etc. qui voudrait être amoureuse. Alors être amoureuse, ok, ça dure quelque temps, mais ça ne permet pas de vivre à deux longtemps, puisque on n'est pas longtemps amoureuse. Et donc moi, je crois que votre problème, c'est que pour l'instant, vous êtes encore dans l'idée de vivre une histoire où on serait amoureuse et que ce serait vraiment l'âme sœur qu'on rencontre. Mais quand on entend que vous dites, oh ben non, à mon âge, j'ai pas vraiment pas envie de, non, vous avez pas
mais
du...
Mais pourquoi pas par la suite, quand je connaîtrai mieux la personne, pourquoi pas habiter ensemble, si, ça...
Oui,
mais j'ai
bof,
rien contre.
Vous avez rien contre. Voilà. Mais les mots ont leur importance.
Oui.
Vous avez rien contre. Mais vous avez rien pour non plus.
Ah si? Si, j'ai
excusez-moi, vous m'avez dit, je n'ai
rien.
Non, mais Fabienne, vous m'avez
non,
dit.
Je n'ai rien contre pour le moment. La phrase n'était pas terminée.
Vous êtes très maligne, hein, mais ça prend pas avec moi. Hein. Vous êtes d'accord, Christophe? On entend bien que Fabienne n'a pas spécialement envie de rencontrer quelqu'un et de vivre une.
Je vais pas rencontrer quelqu'un et bing, on habite tout de suite ensemble. Parce que ça, j'ai eu le cas, mais non, ça marche pas. Il faut attendre de connaître la personne quand même. Mieux.
Alors, il faudrait savoir, vous voulez tomber amoureuse ou vous voulez prendre le temps de connaître la personne? Vous êtes pleine de contradictions, Fabienne.
Tomber amoureuse.
Beaucoup de gens.
Comme beaucoup de gens, je vous l'accorde.
Pour moi, c'est pas contradictoire de tomber amoureuse et après de connaître la personne.
C'est pas contradictoire, mais parfois, il vaut mieux être avec quelqu'un avec qui on n'est pas spécialement amoureuse, et puis on apprend à le découvrir, on se dit finalement on est vraiment bien avec cette personne, et ça fait des couples parfois bien plus solides que quand on part sur les chapeaux de roue pour après découvrir que finalement...
Je suis d'accord avec
folle.
Vous. Mais c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. Je ne suis pas tombée folle amoureuse, je me suis dit on s'entendait bien sur plein de points, mais voilà, je n'arrivais pas à avoir envie de lui, ça c'est compliqué. Alors que je pensais que ça allait venir un jour, mais non.
Bon, il y a encore quelques stages nécessaires auprès de Christophe.
Vous allez revenir, Fabienne. On va venir au Sable d'Olonne faire une séance de mélothérapie, d'accord, Fabienne?
Ouais, je crois qu'il y a encore du boulot, Fabienne. Allez, on va conclure avec Jean-Paul qui vient de nous appeler, qui a envie de réagir. Bonjour Jean-Paul, merci de prendre la parole.
Bonjour.
Je veux quand même qu'il y ait un homme dans cette émission, parce que sinon, où est-ce qu'on va?
L'homme est là, oui, donc il n'y a pas de souci. Non, moi je voulais réagir parce qu'en fait c'est vrai que les gens se posent beaucoup de questions et ça me fait réagir effectivement. J'écoute très souvent Brigitte, je l'écoute très souvent.
Merci.
Et je suis suis, c'est sûr, je vous aime beaucoup. Je suis stupéfait parce qu'en fait, j'ai cette chance, nous avons cette chance avec ma femme d'être heureux. Heureux. Nous avons 51 ans de mariage le 27 juillet.
Alors, un homme qui se rappelle toujours de son c'est année rare. De mariage au bout de 50 ans, c'est rare hein. Vous êtes d'accord, Christophe?
Un bon point,
Jean-Paul.
Oui, là, votre femme, elle est tombée sur une perle avec vous, Jean-Paul.
Non, je ne pense pas que ce soit un bon point. Je pense que je me souviens des chiffres facilement, quoi, en fait.
Donc, ne soyez pas modeste.
Et alors, votre secret de la durabilité heureuse, c'est quoi, Jean-Paul?
Déjà, c'est essayer de se comprendre, essayer de s'aimer, essayer d'être à l'écoute de l'autre, et en fait, bon.
Vous dites essayer, moi je dirais avoir envie, peut-être.
Avoir envie.
Et vous avez traversé des moments difficiles tous les deux et des tempêtes parfois. Il y en a eu des conflits, Jean-Paul, en 51 ans.
Tout à fait.
La mer, quand elle était démontée, eh ben, vous avez resté sur le navire. Comment vous avez géré les conflits? Ça m'intéresse. Comment vous faisiez ces tempêtes-là?
Dans les tempêtes conjugales, vous parlez.
Ah, je parle de votre couple, oui.
Oui, dans le couple. Dans le couple, oui, il y a eu des tempêtes. Mais en fait, je pense que l'amitié prenait le dessus.
C'est beau, ça, Brigitte, quand on dit qu'on doit être comme le et la meilleure amie, que c'est très important aussi. On dit entrer en amitié avec soi-même pour être aussi le et la meilleure amie dans le couple, n'est-ce pas, Brigitte?
Mais bien sûr.
Ça, c'est hyper important. L'amitié, c'est peut-être ce que recherchent autant que la compatibilité sexuelle les deux. Vous avez raison, Jean-Paul. Bravo, Jean-Paul.
Vous savez ce qui s'est passé, surtout sur notre couple, et la chance que nous avons eue. Nous nous sommes rencontrés très, très jeunes. C'était à un âge de 13 et 14 ans, nous étions déjà amis. Et on ne se quittait pas, voilà, l'amitié.
Et c'était une âme sœur, vous êtes voilà. Des âmes sœurs.
Oui, et le jour, un jour on s'est retrouvés, bon, on sortait avec des copains, des copines et tout, et voilà, un jour on s'est retrouvés tous les deux, et on ne s'est plus quittés.
C'est une âme sœur.
Oui, tout à fait.
Quelle chance.
Bah, en même temps, visiblement, Jean-Paul, vous l'avez entretenu, votre chance, hein,
oui.
Je crois.
La chance, ça se travaille. Oui, en tout cas, bravo, 51 ans. C'est les noces de quoi, Jean-Paul?
Noces d'or, 50 ans, l'an passé.
Noces d'or, Brigitte. Les noces d'or. Grand Dieu. Ouais. Moi, les noces d'or, faudrait que j'ai 120 ans pour faire les noces d'or. Je ferai jamais les noces d'or.
Ah, bah, il y a un âge où si on n'a toujours pas rencontré la personne avec qui on peut. On est.
Oui, c'est fini, les noces d'or.
Non, mais c'est la chance, d'être, d'avoir les mêmes atouts. C'est-à-dire que nous étions des sportifs, donc nous avons fait beaucoup de volley-ball, donc nous étions tous les deux dans des équipes différentes en volley-ball.
Une passion commune, vous en parliez, Brigitte.
Oui,
commune. Voilà.
Nous avons eu des enfants.
Vous avez.
Petits-enfants pour le volley-ball. Voilà.
Ben merci, en tout cas, Jean.
Une famille qui s'aime, en fait.
Ouais. Mais et puis vous y avez cru, c'est-à-dire que là aussi, on a beaucoup parlé d'ailleurs d'amour hein, dans cette émission, Christophe Médici, depuis le début, hein, et on voit comment le saboteur aime bien casser la relation amoureuse. Mais en même temps, il faut avoir envie de continuer, il faut avoir envie d'y croire. Hein.
Et parfois, vous avez vu, Brigitte, comme le saboteur, on a plusieurs scènes dans la vie, d'accord? L'amour, le travail, les amis, la santé, tout. Parfois, il est plus puissant sur certaines scènes et moins sur d'autres.
C'est
et chez certains, il va faire rater leur vie professionnelle, mais ils vont réussir leur vie amoureuse. D'autres, ils vont rater complètement leur vie amoureuse. Par contre, leur saboteur va pas tellement parler dans leur vie pro. C'est très intéressant, cette histoire de notre saboteur, parce que suivant les rôles, dans la mise en scène de la vie quotidienne,
c'est
il n'est pas là tout le temps.
Mais je crois qu'on est on n'est pas pareil non plus sur ça. Bon. Il y a des personnes pour qui la vie amoureuse et la vie familiale est prioritaire. Il y en a d'autres, ça va être la vie professionnelle. D'autres sont des artistes et vont faire passer avant tout leur art. Mmh. Et c'est encore une fois où on en revient au fait qu'il faut déjà apprendre à se connaître. Et le saboteur fait tout pour qu'on ne se connaisse pas, justement.
Tout à fait. Et comme disait Oscar Wilde, s'aimer soi-même, c'est la garantie d'être aimé toute sa vie. Parce que la seule personne avec laquelle on est certain, par contre, d'aller jusqu'au bout de l'aventure,
c'est soi-même.
L'autre, il peut ne plus être là du jour au lendemain. des amis nous quittent, nous laissent,
mais
nous
trahissent. Mais peut-être aussi que on parle un peu trop de la nécessité d'être aimé dans son enfance. Alors c'est vrai, c'est important, mais on oublie un autre point qui moi me paraît aussi tout aussi essentiel, c'est la sécurité. C'est-à-dire quand on a eu une enfance sécure, c'est-à-dire notre corps s'est senti en sécurité. C'est pour ça que les abus sexuels sont si dramatiques. Quand on a été aimé et sécurisé, on part quand même avec un sacré bon bagage.
Ah bah tout à fait. Et la sécurité, on en parlait, c'est l'ancrage. Et l'ancrage, ça nous ancre, comme l'ancre du bateau. Et l'ancrage, c'est fait qu'on est là et qu'on avance. Après, la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que ça peut changer chez tout le monde. Moi, je suis un partisan de l'idée du changement positif chez tout le monde. C'est possible pour tout le monde. C'est possible pour tout le monde. Ça, c'est bien. La formation le permet, la thérapie le permet, la psychanalyse le permet, toutes les émissions comme la vôtre le permettent. C'est possible de changer. Et changer, faut pas en avoir peur. Parce qu'on est ambivalent, les humains, vis-à-vis du changement. On le désire autant qu'on le craint. Non, on peut changer. Ce pourri, j'allais être méchant, mais ce pourri de saboteur, on peut lui faire la nique. On a eu des exemples extraordinaires pendant cette émission.
Absolument.
Des gens qui nous ont montré que leur saboteur, ils l'ont neutralisé, puis anéanti. On pense à cette dame extraordinaire tout à l'heure. Elle l'a neutralisé, puis anéanti. Est-ce que l'un peut faire, l'autre peut le faire?
Absolument, on peut toujours, on peut aller mieux et il faut juste accepter cette petite zone d'inconfort qu'il y a entre le moment où on laisse tomber tout ce qui, nos croyances, tout ce qui nous permet de tenir debout mais qui finalement ne nous rend pas heureux. Et puis, on va découvrir un autre soi qui ira mieux. Merci en tout cas beaucoup Jean-Paul de ce témoignage. Et puis, eh bien bravo à vous hein, pour ces 50 ans de vie commune.
Bravo,
c'est vrai que c'est quand même pas si fréquent. Ouais. Et puis, je rappelle que Christophe Médici, vous organisez un week-end de juin à Paris, le 28 et le 29 juin. Ça s'appelle hashtag balance ton saboteur, les clés de la méthode haute qualité relationnelle. Si vous avez envie d'aller à ce stage, vous allez sur hautequalitérelationnelle.fr et vous pourrez vous inscrire. Et ensuite, vous allez aller notamment à Metz, à Bordeaux, à Annemasse.
Vous continuez
et c'est bien, vous avez raison, parce que les gens ont besoin d'aller mieux. Tout de
Merci,
suite,
Brigitte.
Vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Demain, on sera avec Christian Jamin. Christian Jamin est gynécologue. On va faire le point sur le point G, justement, et puis on va mieux comprendre aussi la lubrification féminine.
Sud Radio H
102
Sud Radio.
J'ai grillé tous les stops, trop de questions dans ma tête. J'aimerais me poser dans des bras qui m'enveloppent. Je passe toujours à côté, je les cherche en cachette. Dans mon horoscope, moi j'aimerais qu'on me dise mon avenir, qu'on me tease que des bonnes surprises et qu'on existe tous les deux. J'ai le cœur maladroit. Je suis plutôt raisonnable, sauf quand je pète un câble. Merci pour les fleurs laissées sur la table. Et si je les abîme, c'est parce que j'ai le cœur en zone inondable. Mais si jamais tu insistes, je t'emmènerai sur la piste sans savoir ton sel. Des bras qui pourraient m'envelopper, ça commence à durer, mais tout va recommencer. J'ai le